On va commencer cette méditation en faisant une lecture dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 6. Ce qu'on va voir, c'est une loi qui est évidente, tellement évidente qu'on n'y réfléchit pas. Et pourtant, c'est quelque chose qu'on a tous vécu. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La deuxième partie de ce texte nous dit simplement, si j'emploie des mots différents, celui qui sème pour la chair, c'est celui qui met son appui dans l'homme, que ce soit en lui-même ou en les autres. Ce que dit ce texte est tout simple, c'est que celui qui met son appui dans l'homme, que ce soit lui-même ou quelqu'un d'autre, il sera toujours déçu. Parce que ce que l'homme ne peut rendre, c'est que quelque chose qui est corrompu, quelque chose d'altéré, quelque chose de, je dirais même, ce qu'il a, les questions de corruption. Un fruit qui est corrompu, c'est un fruit qui est pourri, il faut le dire. Si je mets mon espoir dans l'homme, ce que je vais récolter sera comme pourri. Et cet après-midi, j'aimerais te dire, te poser la question... Où est-ce que tu mets ton espoir? Est-ce que tu t'appuies sur les hommes, sur toi-même peut-être même, ou est-ce que tu t'appuies sur quelqu'un d'autre? Parce que la deuxième partie de ce texte nous dit que celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui met son espoir en Dieu pourra de Dieu obtenir la vie éternelle. Le constat, il est facile à faire. Vous avez tous expérimenté ce verset. On ne peut pas imaginer sans cesse mépriser Dieu, sans cesse vouloir se moquer de lui, sans cesse vouloir l'insulter quelque part, par nos paroles, par nos actions, et en même temps vouloir aller au ciel, au paradis. C'est pas possible. Comment se sentir bien dans la présence d'une personne qu'on n'arrête pas d'insulter? Si vous l'avez déjà vécu, vous vous sentez naturellement qu'il y aurait un malaise. Vous passez votre temps à insulter quelqu'un, à vous moquer de lui. Et à un moment donné, vous vous retrouvez devant cette personne, nez à nez avec cette personne. Là, il y a comme un malaise, il y a comme quelque chose qui ne va pas. Et c'est normal. Et comment avec Dieu, ce serait différent? Si je passe ma vie à dire qu'il n'existe pas, si je passe ma vie à le mépriser, en venant à des rassemblements comme celui-ci, et en ne prenant pas position... Ou alors en prenant une position qui méprise le cadeau que Dieu veut donner, il y a un problème. Aujourd'hui, on constate aussi une chose, c'est que ce qu'on a lu est presque un proverbe qui est cité ailleurs. Hein. On vit dans une planète qui est bien sale aujourd'hui. On n'arrête pas d'entendre à droite et à gauche qu'il faut protéger la planète. Et pourtant... On ne constate qu'une chose, c'est que chacun fait ce qu'il veut, et puis ce que les autres vont récupérer, eh bien, ils verront bien eux-mêmes, ils s'en arrangeront bien eux-mêmes. C'est hélas ce qu'on peut constater aujourd'hui. On voit aujourd'hui, il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que l'économie même de notre planète, eh bien, c'est les riches toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres. Je ne veux pas faire de la politique, mais... Ce que je cherche à mettre en lumière, c'est que l'homme cherche à s'alimenter au plus rapidement possible, au mieux possible, pour que lui soit bien, Après, ce qu'il y aura pour les autres, eh bien, qu'ils se débrouillent. Et là, c'est la loi qui régit le monde aujourd'hui. Et chacun, plus ou moins, essaye de tirer son épingle du jeu. Mais malheureusement, on est tous sur cette loi-là. Aujourd'hui, on ne fait que constater que le monde est rempli de violence, d'égoïsme, de choses mauvaises. Et on en arrive même à se dire, mais si Dieu existe, pourquoi Dieu lui permet tout ça? Les guerres, ces malheurs. Et on peut en arriver à avoir le toupet de dire, mais Dieu, pourquoi tu permets ça si tu existes? Alors que le problème, c'est que c'est l'homme qui décide lui-même d'abandonner Dieu. Dieu a donné des règles. Et Dieu a même donné aussi cette loi. Ce qu'un homme sèmera, il va le récolter. Donc si je sème de la violence, je vais récolter encore plus de violence. Et c'est comme ça qu'on en arrive à des échelles de violence, des combats de quartier qui s'enveniment, etc. Pourquoi ? Mais c'est comme ça, l'homme est comme ça. Si je suis offensé d'une manière, mais je vais vouloir rendre homme plus fort. Et c'est comme ça que c'est l'escalade. Mais parce que c'est une loi. Ce que je sème, je récolte. Qui sème le vent, récolte la tempête. Et il y a le vent qui est semé, qui n'est peut-être pas fort, mais derrière ce qui est récolté, c'est la tempête. Et ce que je vous dis, ça vient de la Bible aussi. Ce n'est pas un proverbe, c'est dans Osée, chapitre 8, verset 7, si je vous fais la lecture. « Parce qu'ils ont semé le vent, ils moissonneront la tempête. Il n'y aura pour lui d'épis, mais du blé qui ne donnera pas de farine. Et s'il en donne, les étrangers le dévoreront. » Celui qui sème le vent, il récolte la tempête. C'est aussi simple que ça. Et c'est une parole qui vient de la Bible. C'est une loi que Dieu a établie. Et malheureusement, comme on l'entendait ce matin, l'homme est ce qu'il est, et malgré les avertissements de Dieu, il ne peut pas s'empêcher de semer le vent. Si je reprends l'exemple de ce matin, si je vous dis que la plaque du four, elle est chaude, et que je vous dis, ne la touchez pas, et que si à un moment donné, vous la touchez, vous allez vous brûler. On est tous d'accord. Je ne parle pas des portes froides. Mais qu'est-ce que ça sous-entend? Vous ne vous êtes pas brûlé parce que moi, je vous ai puni. Vous vous êtes brûlé parce que vous avez récolté ce que vous avez semé. Vous n'avez pas cru à ma parole. Vous avez touché la porte, qui est très très chaude, et finalement, vous vous êtes brûlé. Vous n'avez pas écouté l'avertissement et vous vous êtes brûlé par votre propre faute. Et c'est ainsi que Dieu a établi les choses. Et c'est ainsi que malheureusement, on se retrouve à subir les conséquences de nos propres choix. Dieu, quelque part, n'y est pour rien. Il ne fait que nous avertir. Il nous avertit du danger. Et ses bras sont tendus vers nous. Il nous appelle. Et malgré les avertissements de Dieu, on lui tourne le dos. L'homme a tourné le dos à Dieu. Et finalement, quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, on voit qu'on ne s'intéresse plus, par exemple, dans l'instruction des enfants. Et aujourd'hui, on vient pleurer parce que la jeunesse est difficile. Mais l'homme ne fait que récolter ce qu'il sème. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est écrit dans la parole. Donc on a un devoir que d'instruire les enfants. Et quand on vient à pleurer parce que derrière, il y a des violences parmi la jeunesse, que la jeunesse ne va pas bien, parce qu'il y a des situations terribles, eh bien, on récolte ce qu'on a semé. On n'a pas voulu instruire nos enfants, et derrière, ils ne vont pas bien, parce qu'on ne les a pas instruits, nous, les parents. Et c'est là qu'il est tout important, et j'aimerais te parler à peut-être toi qui es jeune. Peut-être que tu pestes sur l'éducation que tu reçois. Mais ton père, ta mère, ils t'aiment, et ils cherchent à t'avertir du danger. Et si tu n'écoutes pas les conseils, tu récolteras ce que tu sèmeras. Et c'est la Bible qui le dit. On voit finalement dans toute cette description que depuis Adam, rien n'a changé. On est toujours à vouloir son propre plaisir. Et s'il y a des conséquences néfastes derrière, eh bien, advienne que pourra. On verra bien. Et finalement, Adam, quand il a succombé, quand il a désobéi à Dieu, il ne s'est pas rendu compte de la tempête qu'il a fait venir sur l'humanité tout entière, en faisant venir le péché parmi les hommes. Il ne s'en rendait pas compte. Il n'a vu que son petit choix personnel, que son plaisir personnel. Mais derrière, toute l'humanité s'en est trouvée infectée. Le péché a atteint les hommes et les femmes. Et la Bible dit qu'il n'y a pas de distinction. Tous ont péché. Et à cause du péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est écrit dans la parole. Alors on peut dire que c'est la faute d'Adam. Mais quand on est honnête et sincère, et qu'on réfléchit sur notre propre comportement, on voit très très bien, très facilement, que nous faisons pareil. On fait nos propres choix. Et puis, si les autres sont ennuyés derrière, eh bien qu'ils se débrouillent. Et on est tous pareils. On est tous pareils. Il n'y en a pas un pour racheter l'autre. On peut pleurer sur le fait qu'Adam, il soit tombé. Mais si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre. Parce qu'on est tous faits de la même pâte, je dirais. On vient tous de la poussière, de la terre. Et le péché est ainsi. C'est dans notre nature. On ne peut pas faire autrement. On a une nature qui nous pousse à faire le mal. Et malheureusement, en faisant le mal, on va récolter plus que ce que nous semons. Et il y a plus qui nous attend. La Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le jugement qui attend l'homme, c'est une tempête pour celui qui fait le mal. C'est une grande tempête pour celui qui fait le mal. Et celui qui, à l'inverse, affranchi par le sang de Jésus, n'aura pas à subir ces choses parce que lui, il aura semé autre chose. Et il récoltera tout autre chose. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Autrement dit, avec la nature que j'ai, je ne pourrai que semer du vent. Je ne pourrai que semer du vent. Et un jour, je récolterai la tempête. C'est aussi simple que ça. Si je reste tel que je suis, je vais à la mort. Et c'est pour cela que cet après-midi, comme les dimanches après-midi, les dimanches, je ne vais pas faire les annonces des horaires, mais quand nous parlons, nous annonçons l'évangile, c'est parce que nous voulons vous avertir. Nous voulons vous prévenir du danger qu'il y a de rester tel que vous êtes. Parce que si vous restez tel que vous êtes, eh bien, Dieu pleure sur votre sort. Parce que votre sort, c'est le jugement. Mais Dieu pleure vraiment. J'ai relevé quelques versets. Dans Ésaïe, chapitre 22, verset 4, ne cherchez pas, je vous le cite. On va lire le deuxième, par contre. C'est pourquoi je dis, détournez de moi les regards. Laissez-moi pleurer amèrement. N'insistez pas pour me consoler du désastre de la fille de mon peuple. Là, c'est Dieu qui pleure sur les hommes qui l'ont abandonné, parce qu'il sait ce qui les attend. Quand j'avertis mes enfants d'un danger, si je les vois qui ne m'écoutent pas et qui se retrouvent en danger, mais je suis le premier malheureux en tant que père. C'est tout à fait normal en tant que père d'être touché par nos enfants qui n'écoutent pas ou qui vont au-devant du danger. Moi, en tant que père, je m'inquiète pour eux. Et je suis malheureux de voir mes enfants s'ils n'écoutent pas les avertissements. C'est ainsi de tous les parents. Tous les parents s'inquiètent ainsi pour leurs enfants. Et ils sont tristes, et ils pleurent. On va lire ce deuxième texte qui est dans Jérémie, au chapitre 8. Jérémie, chapitre 8, et au verset 20. On y voit encore ici la souffrance de Dieu. La souffrance de Dieu quand il voit les hommes qui s'égarent, qui sont loin de lui. La moisson est passée. L'été est fini. Et nous ne sommes pas sauvés. Il y a une dimension par rapport même à l'enlèvement de l'Église dans ce texte. C'est intéressant de voir. Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple. Je suis sombre, la désolation me saisit. N'y a-t-il plus de baume en Galade ? N'y a-t-il plus de médecin là-bas ? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas ? Oh, si ma tête, écoutez ce verset, oh, si ma tête était de l'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. C'est Dieu qui pleure. Dieu pleure sur le peuple qui s'égare. Et Dieu pleure sur ton sort tant que tu restes là dans ton péché. Dieu pleure. Et parce qu'il pleure, il a envoyé son fils. Il ne supporte pas. Mais ce texte-là nous parle aussi de ceux qui subiront peut-être la triste destinée que de rester là quand le Seigneur Jésus sera revenu. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Il y en a plein qui se diront ça. Ils sont passés où, les autres ? Et moi, je suis resté là ? Le Seigneur Jésus va revenir. Il va revenir chercher ceux qui lui appartiennent. Il va revenir chercher ses disciples. Et j'aimerais que cet après-midi, personne ne soit concerné par ce verset. La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne sommes pas sauvés. Il y en a qui resteront là. Et si je lis ce texte, c'est pour vous avertir. Si je lis ce texte, c'est parce que je ne fais que vous redire que Dieu pleure peut-être sur votre sort parce que vous êtes loin de lui et qu'il aimerait que vous puissiez vous rapprocher de lui. Seulement, Dieu s'est imposé une limite. On dit que Dieu est illimité, mais il s'en est imposé une, celle de votre choix, celle de votre libre arbitre. Et ça, c'est une limite que Dieu ne franchira jamais. Il vous respectera toujours. Et le choix que vous ferez dépendra la suite des choses. Le salut, il a été rendu possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre homme qui est venu sur la terre et qui a semé aussi. Et grâce à ce qu'il a semé, on peut bénéficier de bien autre chose que la tempête. Parce que cette loi, elle est valable dans les deux sens. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi, que ce soit en bien ou en mal. Et Jésus, il est venu parce que Dieu pleurait sur les hommes, parce que l'humanité était dans le péché, et il voulait sauver les hommes. Car Dieu a tant aimé le monde, avec des larmes, je dirais, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il veut te la donner, la vie éternelle. C'est à toi de la saisir. Et Jésus, il est venu sur la terre, et il a semé, lui, pour l'Esprit, et il a fait la volonté de Dieu, jusqu'à son dernier souffle. Il a été obéissant et soumis à Dieu toute sa vie. Sa vie entière a été vécue sans commettre un seul péché. Il a souffert et il est mort pour l'humanité tout entière, cloué sur une croix. Jésus, il n'a jamais mis son espoir en l'homme. Comme je le disais en introduction, Jésus n'a jamais mis son espoir en l'homme. Jésus n'a pas été nourri d'amertume quand Pierre l'a renié. L'apôtre Pierre a renié Jésus. Il a dit publiquement qu'il ne le connaissait pas. Alors que c'était celui qui, la veille au soir, avait dit qu'il mourrait s'il fallait, par fidélité envers lui. Et quand Jésus a pu constater le reniement de Pierre, il n'a pas été amer. Il n'a pas nourri la quelconque amertume ou colère ou déception parce qu'il n'avait pas mis son espoir en Pierre. Jésus n'a pas nourri un seul sentiment de vengeance quand il était sur la croix. Il était sur la croix suite à une condamnation injuste, mais il savait qu'elle était voulue de Dieu, que c'était le seul moyen pour que l'homme puisse être pardonné. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Jésus savait cela. Et il n'y avait aucun esprit de vengeance quand il était sur la croix. Au contraire, il dit « Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » Il était plein d'amour pour les hommes. Il était venu pour ça. Et ce qu'il a semé, il l'a récolté 3 jours après, les prémices de la moisson. Il est ressuscité le troisième jour. Et ce ne sont que les prémices de la moisson. Parce qu'à tous ceux qui sont disciples de Christ, tous ceux qui choisissent de se repentir, de demander pardon pour ses péchés, celui qui choisit de tout son cœur de s'approcher de Dieu et de le suivre, alors il peut obtenir le pardon des péchés. Et celui qui est pardonné peut avoir l'espérance de la résurrection. Ce que Jésus a récolté en ressuscitant le troisième jour suite à ce qu'il avait semé. Non seulement il a semé pour lui, mais il a semé aussi pour tous les hommes. Et il t'est possible, cet après-midi, de t'approcher de Dieu et de faire un bon choix. Il t'est possible, cet après-midi, de semer autre chose que du vent. Tu vas pouvoir semer autre chose et récolter autre chose que la tempête, si seulement tu décides de croire dans l'efficacité du sacrifice de Jésus sur la croix. Si seulement tu décides de croire que Dieu t'aime et qu'effectivement, cet après-midi, peut-être encore, il pleure sur toi parce que tu n'as pas pris cette décision. Tu n'as pas fait cette décision que de suivre Jésus. Il veut te sauver. Et l'œuvre de Jésus à la croix n'est que l'aboutissement de la compassion du Père qui, dans le ciel, pleurait sur l'humanité tout entière. Elle s'est réalisée en Jésus-Christ. Peut-être que la repentance va t'amener à une certaine tristesse. J'aimerais te lire ce texte. « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. » C'est tiré d'un psaume qui parle du bonheur de celui qui est racheté, de celui qui est délivré, de celui qui, alors qu'il était captif, a été délivré, de celui qui revient de sa captivité. Alors que cet après-midi, tu es encore esclave du diable et du péché. C'est ce que tu pourras vivre. Si dans cette tristesse que produit le Saint-Esprit, cette tristesse qui mène à la vie, de tout ton cœur, tu viens à Dieu, tu pleures sur tes péchés, tu demandes pardon à Dieu, alors elle est là la promesse pour toi. Il veut que tu puisses récolter la vie éternelle. Il veut que tu puisses éclater en triomphe. Parce que tu auras fait la paix avec Dieu, que tu seras dans l'assurance, alors que peut-être cet après-midi tu es dans le doute. Alors que peut-être il y a de la violence dans ton cœur, de la colère, ou je ne sais. Il y aura la paix et la joie. Et de ce choix que tu peux faire, tu peux comme Jésus semer pour toi, et c'est déjà une bonne chose. Mais la parole dit aussi que ce que tu sèmerais, serait aussi pour tous ceux qui t'entourent. Alors que le geôlier est dans sa prison, il demande à Paul, « Mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé ?» Et Paul lui dit, « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Aussi, le choix que tu fais cet après-midi peut même avoir un impact sur ceux que tu aimes, ceux qui sont proches de toi, et tu pourras récolter aussi la vie éternelle pour toi-même. Mais Dieu est soumis à nos propres choix à chacun et il restera soumis aux choix de tes proches. Mais parce que toi, ta vie aura changé. Parce que toi, il y aura quelque chose que Dieu aura fait. Tu seras un autre homme. Tu seras une autre femme parce que tu auras été changé par Dieu. Ça ne pourra qu'interpeller ceux qui sont autour de toi. Et ça leur fera envie de voir qu'il est possible de se coucher avec la paix. Qu'il est possible de se coucher avec la paix de Dieu vraiment et de s'endormir en disant « Merci Seigneur, c'est possible ». Et c'est quelque chose, celui qui a reçu la bonne nouvelle, celui qui a reçu Jésus-Christ, qui a fait la paix avec Dieu, eh bien, il peut être quelqu'un que Dieu utilise. Il peut être à son tour une semence pour d'autres. Et il y a de l'espoir pour ceux qui sont autour de toi, ceux pour qui tu es attaché. Ce verset, c'est une promesse. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Maintenant, je te pose la question, on va se recueillir quelques instants. Quel est ton choix cet après-midi? Qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu décides de rester comme tu es? Est-ce que tu décides de continuer à semer du vent ? Dans le vent, il y a aussi le côté éphémère des choses. La Bible dit que le méchant, celui qui se détourne de Dieu, il est comme l'herbe. Il est comme l'herbe, aussi éphémère que l'herbe. Et que le juste, lui, il fleurit comme le cèdre du Liban, un arbre qui a une longévité de 3000 ans. Il y a une différence entre être de l'herbe et être un cèdre du Liban. Et j'aimerais te dire cet après-midi que selon le choix que tu décides de faire, parce que Dieu respectera toujours ton choix, eh bien, il va en découler toute la suite de ta vie. C'est un choix capital. C'est un choix aussi qu'il faut bien mesurer, parce que la vie ne t'appartient pas. Tu ne sais pas ce que sera fait ta vie. Tu ne sais pas ce que tu vas devenir dans quelques jours, dans quelques semaines. Et je me répète par rapport à l'introduction de ce message. Je crois que ce message est en particulier pour quelqu'un qui risque de semer du vent et qui risque de récolter une grosse tempête. Épargne-toi de passer par la tempête, simplement en changeant de semence. Il te faut changer. Il te faut t'approcher de Dieu.